podcast.com. Essaye ça.
Express du 30 janvier. Salut, Martin.
Salut, François.
Il y a eu tout un after show hier.
Oui. C'est toujours c'est comme un lendemain de brosse, dans le fond, l'express du lundi. Tu sais, c'est toujours...
Ouais,
c'est
un peu rough.
Ben, rough, je sais pas, mais c'est comme... C'est, moi, là, les dimanches, là, c'est pareil comme quand je jouais de la musique quand je me couche. Tu sais, faut que. Ben non, mais.
Il te cille en te couchant.
Ben, il me cille pas, mais tu sais, c'est le même feeling, là. Je sais pas, c'est pas les mêmes symptômes physiologiques, mais c'est le même feeling, tu sais, d'avoir fait un show, là, toute la veillée, là. Fait que.
Ouais, feeling d'après-show, puis ouais. Tu restes, c'est une espèce de petite adrénaline qui t'empêche d'aller te coucher tout de suite, puis qui fait que tu manges des cochonneries jusqu'à 3h du matin.
Exactement.
Ben, on est quand même là, en vie, et nous ne souffrons pas d'indigestion. Quoique, il y a une couple de nouvelles qui sont indigestes aujourd'hui. Il y a un personnage aussi qui est assez indigeste, mais on est quand même habitué de le digérer, de le mâcher. Ben, en fait, souvent, on le recrache avant de le digérer. Et je parle ici de l'empereur, le grand leader, il Duce des Farfadas.
Le Tutti Capi, là, des Farfagnas.
Parle-moi-en donc.
Ben, écoute,
il y a moyen d'être dans l'actualité encore.
Ouais, il y a la journaliste Kenza Beladi du droit, mais qui est associée bien sûr à l'Empire, la presse. La presse, c'est Jessica, je pense, ou en tout cas sur
ouais, Jessica, la presse, le soleil.
Ouais, le droit, la presse, le soleil, machin. Qui est allé le rencontrer, bien sûr, en marge de la commémoration, j'ai pas dit anniversaire, de Tatawa. Et, ben écoute, il y a des pièces, il y a des morceaux, là, en gros, là, c'est titré, en fait, « Je sens que j'ai gagné
». J'ai gagné quoi?
C'est ça, je te demande, c'est ça ce qu'on se demande tous. Mais, voilà, et puis, il y a des, écoute, là, tu sais, évidemment, il revient sur les événements, on lui pose les questions classiques, le regrettes-tu? C'est un peu, honnêtement, tu sais, il n'y a pas grande confrontation, là. Je comprends que c'est une rencontre, là, puis c'est pas une entrevue, là, tu sais, c'est pas dans le but de publier un article, sauf que, écoute, tu sais, in typical l'artiste fashion, ça ouvre avec « Ce ne sont pas les leaders qui créent des causes, ce sont les causes qui créent des leaders. Moi, je n'ai jamais voulu devenir ce que je suis. J'ai accepté mon rôle parce que je suis incapable de me taire devant l'injustice. »
Ouais, c'est la vie et le devoir l'a choisi pour l'aider les armées
conspirationnistes. Oh, pour aller. Non, regarde, t'as même pas besoin de te lancer là-dedans. Je vais juste aller des quotes, c'est pire que ça.
Ça là. Va être pire.
Ben oui, là, oublie ça. Là. Là, on est rendu aux portes de la justice, donc il y a des juges qui vont devoir se prononcer sur mon dossier. Dans un sens ou de l'autre, moi, je trouve que j'ai gagné parce qu'on est entendu. J'ai gagné parce que t'es ici pour entendre mon opinion. Enfin, le petit peuple qui est nous autres a une voix. Tu sais, c'est Jésus, là.
Oh oui, c'est la voix du peuple qui est devant Ponce Pilate, puis qui, avant de se faire crucifier, va dire pardonnez-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est intéressant, par exemple, parce qu'il est fait mention des conditions auxquelles il doit se soumettre. Et là, ben, écoute, je te le cite encore, j'ai des conditions à respecter qui sont moindres parce que côté manifestation, je n'ai pas le droit de donner mon appui d'aucune façon que ce soit à une manifestation qui pourrait être reliée à la COVID. Et là, c'est là que c'est bien intéressant. Je n'ai jamais manifesté contre la COVID. Si jamais je retourne dans la rue, ça va être pour continuer de manifester pour qu'on respecte la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Oui, ce fin juriste.
Ben mais, voilà. Juriste du dimanche. Qui a manifesté
contre la COVID. Ben, en tout cas, je veux dire, moi, je trouve que la plus belle manifestation contre la COVID, c'est les mesures sanitaires et le vaccin. Ça, la COVID a vraiment pas aimé ça. Oh, qu'on a dérangé la COVID avec ça. Mais des manifestations contre les mesures sanitaires, c'est une manifestation pour la COVID, mon Steve. C'est en faveur de la propagation de la COVID.
L'autre affaire, ben tu sais, il est quand même positif, Steve. Hein? Heureusement pour nous et malheureusement pour eux. Mais mon chemin de vie me dit que la prochaine fois, on va être plus. Ça ne sera pas parce que c'est moi qui parle, mais parce que les gens sont écœurés. La seule affaire dont on est écœuré, Steve, c'est toi.
Oui, mais...
Tu sais, c'est pas dur, là.
C'est malheureusement pour eux. C'est qui, eux? Les forces sataniques démoniaques qui essayent d'asservir les Québécois pour les entraîner dans une dictature épouvantable? C'est-tu ça, eux?
C'est là, on lui pose évidemment la question « Qu'est-ce que tu ferais si c'était à refaire? » Et sa réponse, c'est « Si c'était à refaire, il n'aurait jamais quitté le stationnement de Zibi malgré la demande d'injonction qui avait été déposée pour que les membres évacuent le campement. » L'organisation des Farfadets avait occupé le stationnement du projet Zibi pour une période de 3 semaines. Mais on se rappellera dans ces vidéos, d'ailleurs on en a regardé hier, qu'il y avait supposément une entente à l'effet que ça coûtait 1000 $ par, ça coûtait aux Farfadets 1000 $ par jour pour pouvoir occuper ou en tout cas être dans ce stationnement-là. Et là, il dit, j'ai toujours respecté quand même le système de justice. On nous a expulsés du stationnement par une injonction de la cour légalement et on est parti. On n'était pas là pour brosser, on n'était pas là pour devenir des criminels, mais on a fait de moi un criminel pareil.
Ah non, c'est encore une victime de l'État totalitaire.
Ah ben oui, ça s'écoute là. C'est, malgré la fin de sa détention, Steve Charland soutient qu'il n'est pas sorti de prison, mais qu'il a plutôt simplement changé de boîte. Ah ben d'abord, veux-tu y retourner si c'est pas si pire que ça? Pour sortir de prison, j'ai accepté des conditions qui vont à l'encontre de mes droits fondamentaux. C'est complètement aberrant. Pour moi, c'est la seule raison pour laquelle on m'a enlevé mon droit de parole, parce que finalement, c'est par mon charisme que je suis devenu dérangeant. Ils ont mis une pause sur les rassemblements en demandant aux leaders, entre guillemets, de se taire. Mais tu t'es jamais tu, toi, Steve. Tu gardes là. Moi, là, c'est pas compliqué, là. Tu sais, la quintessence de l'ironie ici, alors que Steve, qui chie sur les médias depuis 3 ans, alors qu'il y a qu'un journaliste l'approche pour faire un topo sur lui, il accepte ou il refuse rarement. Rarement, là. Que ce soit, pas l'anglois, comment il s'appelle le gars à station de Cogeco à Gatineau, là, j'oublie son nom. C'est
pas lui.
Non, c'est pas lui, c'est un autre. Il était au sport avant, ici à Montréal. C'est pas grave, c'est pas important. Il a fait partie presque de pas il a fait partie, là, j'allais exagérer. Mais tu sais, il a été reçu quand même quelques reprises sur cette antenne-là. Il a été l'objet de Simon Coutu dans son podcast à Radio-Canada. Est allé passer du temps avec lui. Le Soleil s'en va le rencontrer pour un an plus tard de Tatawa. C'est bon rien, les médias, hein, Steve? Hé, tabouère! C'est de la marde, hein?
Ce que je trouve drôle, c'est que, tu sais, lui, là, il se bat pour ses convictions, puis lui, il se lève debout pour ce en quoi il croit. Mais il a accepté des conditions qui vont à l'encontre de ses convictions pour sortir dehors. Fait que dans le fond, des convictions, t'en as pas tant que ça. Je veux dire, t'as des convictions tant que t'es le roi de la montagne, puis que t'es le gourou de ta petite secte, puis que t'es le king de la place, puis que t'es dans ton gros VR ou que tu vas faire caca dans ta petite toilette au chaud pendant que t'es... pendant que les membres de ta secte de Farfadet sont obligés d'aller dans une chiotte dehors. Fait que dans le fond, tes convictions... Tu vas être debout puis tu vas tenir tes convictions tant que ton confort est pas menacé. Tu sais, au moins on pourrait pas reprocher à François Maléga, tu sais, de pas avoir la force de ses convictions.
Ouais, lui c'est un vrai.
Lui, il va en prison pour les niaiseries en quelles il croit. Tandis que toi, si ton confort est plus là, ben là tes convictions, t'es prêt à marcher dessus. T'as pilé sur tes valeurs et tes convictions pour sortir de prison.
Pas juste ça, Frank.
Héroïque que ça.
Sa conjointe qui à ses côtés depuis trois ans aussi, depuis le début de toutes ces affaires-là, qui les merdias. Je pense qu'elle partage trois articles de merdia par jour, tu sais. C'est quoi vous avez pas compris, là? C'est-tu bon ou c'est pas bon? C'est-tu correct ou c'est pas correct? Tu sais, excuse, là, mais, tu sais, moi, je suis pas naïf. Soyez pas naïf, là.
Ah, non.
Non, mais moi, je suis pas naïf. Je le sais qu'il y a certains articles qui font, comme, regarde, là, je vais te donner un exemple super concret, tu sais. Je le sais très bien que si je partage cet article-là sur Ménage du dimanche, tu sais, même si je suis pas d'accord avec les propos que Steve l'artiste y tient, ben, je dissémine cette information-là. La Louve, elle fait pareil, là. Fait que, tu sais, bon pour Pitou, bon pour Minou, tu sais. Mais là, c'est ça. Un an plus tard, ben là, tu sais, puis j'aime pas ça. Je l'aime pas, l'article. Parce que l'article traite, tu sais, le traitement, là, tu sais, d'écriture, c'est... Steve s'est retiré dans ses terres à Grenville-la-Rouge, loin du bruit de la ville. Arrêtez de le présenter comme le gourou dans Point Break, asti. C'est un maillet. C'est tout. Arrêtez de... Les journalistes, arrêtez de tomber dans le panneau. C'est un coucou. C'est tout.
Non, c'est un héros, de fier héros québécois qui se bat pour nos convictions. En plus, doublé d'un poète.
Ben oui! Arrêtez de le monter sur un pseudo-piédestal. Vous faites juste galvaniser ses troupes quand vous faites ça. Comment ça se... OK, pendant Ottawa, il y a eu le traitement qui se devait, dans le sens que, tu sais, on parlait des niaiseries que les farfadets faisaient, on parlait des conséquences de celles-ci, on parlait des recours légaux qui avaient été pris, des injonctions, puis tout le kit. Il devrait pas avoir de Steve l'artiste, un an plus tard. On s'en crisse!
Ben oui, c'est ça. C'est pas comme si c'était un personnage marquant de l'histoire, puis qui avait réalisé
ben oui.
que ce soit. Il a rien réalisé. Il a juste fait de la marde pendant qu'on combattait une pandémie. C'est vrai qu'il y a comme une espèce de... Il y a des journalistes qui aiment ça, en faire une espèce de héros poétique. Là.
Ben oui, c'est pas William Wallace, là, tabarnak. Non, c'est Steve l'artiste. Ça va faire, là. Il y a toujours une espèce de mysticisme autour de lui. Une espèce de quelque chose d'un peu... comment dire? C'est ça, de mystérieux. Puis de tu sais, c'est pas Patrick Swayze dans Point Break, là. Calmez-vous, là. Alors, je suis tellement... Vous lui offrez vos pages, puis vous donnez un traitement comme ça. Ça lui permet de dire des affaires comme « C'est parce que je suis charismatique que j'ai pu... » Hey!
Il n'est pas à la recherche de la vague métaphysique pour la surfer jusqu'à la mort. Il est à la recherche de gens naïfs pour y donner de l'argent!
Mais non! Puis écoute, là, Blake qui dit « Ouais, mais toutes les pages, même ici, en parlent. » Ouais, oui, j'en parle pour dire « Arrêtez ça, calice! » Je t'ai écœuré.
On va pas en parler, on dit de traiter ça.
Ben oui, voilà. Là. J'ai rien contre le fait qu'il en soit fait mention dans les journaux, mais arrêtez de le présenter comme si, écoute, là, c'est
une roche dans le soulier du Québec, là. Arrêtez de dire, bon, c'est ça. C'est ridicule. Je dis pas qu'il faudrait. T'sais, il l'encense pas, tu sais.
Non.
Je voudrais pas non plus qu'il vilipende comme nous, on le fait, là. Mais essayez de rester lucide. Là,
ben oui, c'est ça.
Ouais, t'sais. Là, t'sais, je comprends que vous êtes tenté de faire des belles tournures de phrases avec son personnage charismatique qui fait de lui un excellent gourou. Il est peut-être en train de vous engourouter là, à 5-10% là, t'sais, pour que vous ayez...
On va être moins...
Vous influencer assez pour le dépeindre comme quelqu'un qui a une espèce de sens profond, comme un individu profond. Il n'est pas profond, il est profond comme une flaque d'eau. Une flaque d'eau sale avec du gaz à la surface. C'est ça que c'est. Présentez-les comme ça.
Bon, fait que j'ai fini. Ça m'a fait du bien. Merci. non, mais c'est parce que, tu sais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, tu sais, pourquoi? Allez donc, regarde, là, au lieu de faire un topo sur Steve l'artiste, là, allez donc rencontrer un commerçant qui a été obligé de fermer pendant 18 jours et qui a perdu 50 000. Là. Tente pas d'avoir l'histoire de ce gars-là. Allez, oui, j'ai fini, là.
Ah, un autre individu douteux, un autre gourou, mais un gourou, tu sais, qui est plus officiel. et même que c'est son travail légitime. Il s'appelle le cardinal Ouellette et il vient de La Motte en Abitibi, comme tu le découvrais tantôt. Ben oui.
Ben, je le savais, mais je m'en rappelais plus, sans joke. J'avais oublié ce détail, mais c'est vrai.
International. Ben ouais, mais c'est une superstar du Vatican, lui-là. Il aurait pu éventuellement un jour accéder à la job de pape. La job de pape, c'est dur à avoir. Hein? Il a juste été très contingenté, dit-on. il a décidé de démissionner. Il ne fera plus partie de... Comment on appelle ça? En tout cas, peu importe, c'est la patente de cardinal de je ne sais pas quoi.
Le recteur des cardinaux, là, en tout cas, je ne me rappelle plus du nom. Là, ça, là, c'est parce que je
le m'en... rectum des cardinaux, peu importe. Il démissionne parce que il est vieux. C'est ça la raison. Il est vieux, 78 ans, puis... Ben aussi, il y a deux plaintes d'inconduite sexuelle qui le visent, mais ça, ça...
Pas rapport, ça. Ça n'a pas de rapport, ça.
il va être remplacé par Monseigneur Francis Robert Prévost. Francis Robert Prévost, mais bon, il est né à Chicago, puis c'est l'évêque de...
Chicago.
Chiclayo, au Pérou, OK? C'est un évêque au Pérou. Et puis, on va l'envoyer ici pour tasser, pour reprendre la relève de celui qui est...
Breaking news. On est 108. Excusez.
Parfait. C'est une bonne raison de m'interrompre pour cette nouvelle-là. Je l'aime toujours. Mais, évidemment, lui, il nie toutes les allégations qui sont faites à son endroit. Puis c'est sûr, il va être remplacé par le cardinal, un évêque qui est au Pérou. Puis, c'est ça. Lui, c'est les deux plaintes d'inconduite sexuelle. C'est pas vrai. Il a rien fait de pas correct. Mais ça donne de même que là, il démissionne là, puis c'est à cause de son art. Moi, j'ai l'impression qu'on lui a dit, hey, avant que ça éclate, puis avant que tu sois reconnu coupable, là, sac dans ton camp, puis on va moins parler. Ça va faire moins de tort à l'Église. Ça va faire moins de tort à toi aussi si tu t'occupes un poste moins important. Est-ce qu'il va être déclaré coupable? Je ne le sais pas. Puis, je veux dire, personne ne le sait à part.
Mais t'as-tu vu comment il est fait mention de comment l'Église avec un grand E, là, a traité ça? Tu sais, c'est l'année dernière que l'Église a mis ça de côté parce que c'est sans fondement, tu sais, puis tout. Et je comprends là, qu'au niveau judiciaire, il n'y a pas eu de. Il n'y a rien eu comme avancée.
Il
n'est
pas encore coupable, tu sais.
Ouais. Ben, c'est ça, mais tu sais. Non, c'est parce qu'il est vieux. C'est parce que c'est ça. Il est vieux. C'est tout. Fin.
En tout cas, il y a une femme. Qui a déposé plainte, une plainte contre lui d'inconduite sexuelle à l'automne 2020. Ça se serait passé entre 2008 et 2009. Et aussi, il y en a une autre dont on connaît le nom, Pamela Grolot, qui dénonce des gestes déplacés. Puis évidemment, le cardinal Ouellette dit qu'il n'a rien à se reprocher. Puis... il veut même pas commenter. Ben, en fait, il dit, comme je l'ai mentionné lors de cette enquête, je nie avoir commis tout comportement répréhensible à l'égard de cette femme, en soulignant qu'aucune demande pour réactiver le processus de plainte n'a été formulée. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas arrivé. Là. Les scandales sexuels avec des hommes d'église, c'est monnaie courante, malheureusement.
C'est des coïncidences, Frank. C'est des erreurs judiciaires dans chaque cas, là.
Ou c'est des erreurs parce que Dieu ne saurait nommer des agresseurs sexuels pour le représenter sur la terre. Évidemment. Mais c'est ça. D'habitude, ce qu'on fait quand un membre du clergé est déclaré coupable, en fait, c'est ce qu'on faisait plutôt avant. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais je sais que ça se fait beaucoup moins parce qu'ils sont fait pogner au Vatican. Là, c'est qu'on change de place. Admettons, il y a un prêtre, un pasteur, un évêque, peu importe le grade de l'armée de Dieu que porte le coupable, plutôt que de le dénoncer à la police ou plutôt que de prendre des vraies mesures, on change de place. S'il a fait des victimes au Pérou, on l'envoie en Afrique, dans un pays sous-développé où la justice n'a pas cours, où la police est si... souvent impuissante, si ce n'est inexistante, ou en tout cas moins puissante que l'Église, qui fait qu'elle n'ose pas s'attaquer aux membres de l'Église. Et puis, on le change de place, puis l'agresseur continue d'agresser. Puis quand il se fait pogner, bam, on change de place encore, puis on les déménage, puis on les protège, puis on cache leur nom, puis on fait taire les victimes, on les paye, on les menace. C'est comme ça que ça marche dans l'Église.
J'ai trouvé l'affaire qu'on cherchait, là. Il était le préfet de Decatur. Le dicaster des évêques, le Decatur.
Decatur. J'adore ça.
C'est cave.
Oui. Je suis pas sûr que les autres s'en rendent compte. Mais ben, c'est ça qu'on fait. On protège l'agresseur et on fait taire les victimes. Parce que ce qui est important, c'est pas la justice, la morale ou la vertu. C'est l'image de l'Église et tout ce qui pourrait entacher son image, en fait, pour
évidemment.
Ce qui pourrait diminuer son pouvoir, son influence et sa richesse. C'est ça qu'on protège. L'Église, c'est une organisation mafieuse qui, au sens figuré, là, je pense pas qu'il deal vraiment avec la mafia. Là, quoique, tu sais.
Ben, il y a déjà eu des histoires. Tu sais, qu'Immobiliaré, dans le parrain, dans la troisième partie du parrain, il y a des éléments qui sont inspirés de faits réels.
Là. Ben oui, je regarde.
Écoute, là.
L'Église est au pouvoir et s'arrange pour garder le pouvoir ou coucher avec ceux qui le détiennent ou qui en détiennent une partie. D'ailleurs, chose que pas tout le monde sait, qui fut le premier État allié du Troisième Reich, l'Allemagne nazie de Hitler?
Ben, ça doit être le Vatican. Hein?
Le Vatican a été le premier État à être allié de Hitler parce que je trouvais que ça avait bien de l'allure, ces affaires. Là, de...
Ouais, mais là, ça devait être avant qu'ils commencent à exterminer du monde, là, quand même. Là.
Ah, ben, c'était peut-être avant qu'on découvre les camps de concentration de Dachau, là, mais je veux dire. Hitler a jamais été très, très tempéré dans ses propos.
Non, c'est vrai.
Il était fort sur les droits humains. Puis côté moral, il est à peu près à la même place que l'Église. Là. Il n'est pas très haut côté moral. Ben, eux autres, ils se reconnaissaient là-dedans. Ils ont fait un deal avec. Puis, ah, ben, c'est cool. Ça, on va te suivre là-dedans. Puis c'est pas pour rien que il y a bien du monde qui dit, ah, les nazis, ça, c'est l'athéisme. Il y a du monde qui pense que c'est... c'est quand tu débats avec des gens qui ont la foi, puis tu essaies de montrer que la religion est immorale lorsqu'on lui donne du pouvoir. Puis là, tu parles de théocratie, des pays qui sont contrôlés par la religion. C'est toujours des pays où les droits humains sont bafoués, où les femmes sont inférieures, où il y a toutes sortes de lois qui n'ont pas d'allure, de l'âge de bronze. « Ouais, ben l'athée, c'est quoi les athées? C'est les nazis! » Non.
Mais ça, c'est du garrochage de termes, de...
Ben, en fait, ben, c'est parce que c'est semi-fondé, parce qu'il y en a qui vont mettre de l'avant que Staline, par exemple, était athée. C'est vrai, Staline était athée, mais il n'a rien fait de ce qu'il a fait au nom de l'athéisme. Tu sais, je veux dire, son athéisme n'avait pas rapport dans ses politiques. Puis Hitler, ben lui, il n'était pas athée. C'était un catholique romain, puis les nazis, en arrière de leur boucle de ceinture, c'était écrit... Dieu est avec nous. Fait que, on se servait aussi de l'imagerie religieuse. Fait que ça n'a aucun lien. Ça n'a aucun lien avec l'athéisme. En tout cas, pour revenir à ça, ben, c'est ça. On protège ces gens-là. Et puis là, ben, sa démission, ben, c'est ça. C'est pas parce qu'il est inquiété par les deux plaintes d'inconduite sexuelle. C'est parce que il est vieux, puis il veut prendre sa retraite. Ben oui, on te croit. Puis je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je parle contre le cardinal Ouellet, parce que c'est une fierté québécoise. Ben moi, il ne me rend pas fier.
Je veux répondre à Blake, parce qu'il y a quand même un point valable. Là. C'est sûr que le Vatican est en plein milieu de l'Italie mussolinienne. Là. Je ne sais pas si ça peut avoir une certaine incidence. Puis C. Corbeau qui dit « Monseigneur Ouellet quitte ses fonctions pour cause d'atteinte à la limite d'âge. » Oui, oui, on en a parlé, on en a ri, en fait.
Ouais, c'est ça.
Avec un cas de topo, on n'est pas passé drette là-dessus. Là.
ça donne de même. Tu sais, t'es pape jusqu'à ta mort, mais comment ça s'appelle, là? Dick.
Dickaster. Le Dickaster. Le préfet du Dickaster.
Ouais, c'est 78 ans, ça arrête là.
Ouais.
Mais puis ça n'a aucun lien avec les...
Ben non, mais tu sais, pourquoi? Tu sais, parce que là, il mentionne dans l'article qu'il avait dépassé l'âge limite, mettons, de 2 ans. OK, mais pourquoi après 1 an, c'était pas grave, mais là, 2 ans, c'est grave? Ça n'a aucun rapport avec les deux plaintes d'inconduite sexuelle. Ben non, voyons!
C'est une coïncidence.
Non, là, tu dépasses, mais de trop. Tu sais, c'est avant, tu dépassais juste assez. Tu sais, voyons, là, tu dépasses ou tu dépasses pas, là, tu sais, je veux dire.
Anyway. Je pense pas que les liens entre le Vatican et l'Allemagne nazie est vraiment de rapport avec Mussolini. Tu sais, ça serait allié avec Mussolini, je comprendrais, là, par peur, tu sais, à cause de la terreur qu'inspirait ce monsieur-là. Mais en fait, si le Vatican représente le royaume de Dieu sur terre. Ils ne devraient pas piler sur leurs convictions,
ben voilà.
Leur morale pour ils ne devraient pas plier devant des dictateurs.
Exactement. Ça prouve même si Blake a raison, ça prouve notre point. C'est-à-dire que c'est une organisation de marde.
Et surtout, c'est une organisation terrestre, OK? Puis que ça prouve que c'est pas le représentant du royaume de Dieu, que le pape ne représente pas Dieu, parce que si le pape représente Dieu, est inspiré par Dieu dans tout ce qu'il dit...
Il aurait dû se battre contre l'injustice.
Pourquoi, ben c'est ça. Pourquoi il s'écraserait devant Mussolini ou les nazis? Moi, ce que je pense, c'est que ce que je sais, c'est que le Vatican aimait beaucoup les tendances antisémites de Hitler. Parce que, d'ailleurs, le peuple juif, jusqu'à récemment, était accusé de déicide. Tuer un dieu. Ils étaient accusés du pire crime qui existe dans leur univers parallèle. Ils accusaient les juifs d'être des déicides.
Des tueurs de dieu.
Tuer Jésus, des tueurs de messie. Puis ça, je pense que ça a été retiré assez récemment dans l'histoire, genre les dernières décennies. Là. Mais longtemps, le peuple juif était l'ennemi du Vatican parce qu'il avait tué Jésus.
Mais moi, je t'emmène ailleurs, Frank. Sérieux, là, on n'aura jamais la réponse, mais tu sais, mettons juste, je le sais qu'il y en a plein avant, là, mais tu sais, on n'avait pas les mêmes moyens de communication, là, mais mettons juste depuis 1900, tu sais, jusqu'à aujourd'hui, là, OK, mondialement, je serais vraiment curieux, puis ça n'arrivera jamais, là, mais je serais vraiment curieux de savoir combien de plaintes ont été enregistrées formellement, ce qui ne serait pas le vrai total, contre l'Église catholique pour inconduite sexuelle. Juste la quantité que ça donnerait justifierait de ne pas vouloir s'associer à ça.
Ça justifierait de mettre la clé dans la porte de cette organisation-là, là, qui dont le seul but semble être acquérir du pouvoir et des richesses. Là. Tu sais, je veux dire,
pas pour rien. Non, mais je ne mets même pas ça là-dedans. Je fais juste mettre les inconduites sexuelles. Tu sais, toute organisation qui aurait un prorata avec un pourcentage similaire à la religion catholique se ferait foutre en prison.
Ben, je fais allusion au pouvoir parce que c'est ce pouvoir-là qui leur ont permis de sévir puis qui donne une espèce d'aspect d'infaillibilité aux prêtres. Tu sais, quand ça arrivait ici au Québec, là, un prêtre faisait des affaires comme ça, taponnait des petits gars, des petites filles, là, s'il fallait que l'enfant dénonce, dis jamais ça, toi. Redis plus jamais ça. Lui, notre prêtre, là, c'est un saint homme envoyé de Dieu, puis que je t'entende plus jamais dire des mentries comme ça à propos de lui. Là. Tu vas demander pardon, là. Va confesser au prêtre qui t'a agressé. Va te confesser de l'avoir accusé. C'était comme ça. Je veux dire, les religions marchent comme ça. Là. Je veux dire, ils sont infaillibles. Fait que si tu les accuses, tu mens, puis t'es un ennemi de l'institution, donc par extension de Dieu. Tu dis jamais ça. C'est comme un blasphème. Fait que pendant des siècles, voire un millénaire au moins, les gens ne pouvaient pas accuser les prêtres, puis il n'y avait aucun recours contre ces gens-là. Là. Dernièrement, dans les dernières décennies ou siècles, ben là, il y a plus un système de justice, surtout les dernières décennies, un système de justice un peu plus libéré de la foi puis de la religion. Puis c'est là qu'on a commencé à être obligé de déménager des prêtres, puis des curés, puis des évêques, puis des agresseurs sexuels. On les changeait de pays, puis on payait des victimes pour qu'ils ferment leur gueule, ou on les menaçait d'excommunication ou X sentence qui pouvait nuire à ces gens-là ou de scraper leur réputation. Fait que, tu sais, c'est comme ça qu'ils se sont ajustés quand ils ont commencé à voir. Avant, il n'y avait pas de plainte parce que tu ne pouvais pas te plaindre. Puis quand ils commencent à avoir des plaintes, plutôt que de zéro, on a peut-être un vrai problème. Ils disent non, on va juste le fermer à gueule. Puis on va déplacer les pédophiles de pays pauvres en pays pauvres. Puis jusqu'à ce qu'ils soient dans un pays qui a tellement pas de ressources qu'ils puissent sévir en toute impunité.
Si,
on va dire que tous les prêtres sont des agresseurs. Moi, tous ceux que j'ai connus, pour vrai, moi, j'ai principalement deux prêtres quand j'étais jeune. Dans le temps que j'allais à l'église, puis j'allais à la catéchèse, je les avais beaucoup aimés, là, tu sais, Jean-Louis et Régis, à Saint-Augustin-de-Desmaures. Je les avais beaucoup aimés, ils étaient super cool, ils nous apprenaient des belles affaires, tu sais, oui, un peu de religion, mais quand même, il y avait des enseignements moraux qui avaient de l'allure, puis rien à reprocher à ceux-là, puis rien à reprocher à un paquet d'autres qui sont irréprochables. Mais ceux qui sont des agresseurs, ben eux autres non plus, personne ne leur reproche rien, en tout cas jusqu'à tout récemment. Puis moi, j'aime ça quand je vois
des têtes. Je m'en allais dire la même affaire. Je m'en allais dire la même chose que Red is Dead vient de dire. Là, si vous n'avez pas vu ça, allez regarder le film Spotlight. Ça a gagné 2 Oscars avec Michael Keaton. Ça parle de l'Église romaine catholique de Boston. Le Boston Globe qui a brisé cette histoire-là, qui a amené ça au grand jour. C'est absolument hallucinant. Et on parle de quantité effarante, là. Puis l'Église payait les parents pour pas qu'ils portent plainte, puis toute la quête. C'est vraiment pas d'hier, là, si vous voulez en savoir plus sur cette histoire-là.
Sur plateforme, ça se trouve-tu sur Netflix?
Je peux pas te dire, je sais pas. Tout le monde sait où trouver tous les films.
Ça va certainement se trouver assez facilement avec l'Internet de nos jours.
On peut pas le dire, on peut pas le dire ici, parce qu'on veut pas que la GRC débarque chez vous, mais regardez Spotlight. Voilà.
Ouais, c'est ça. Gars, on va aller faire une petite pause, puis je vais revenir avec un autre petit dossier religieux.
Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide.
Rire et facepalm garantie.
Ah ben coucou, moi c'est Madeleine.
Pour te créer un compte, c'est pas compliqué. Ça te prend une adresse courriel. Mais pas n'importe laquelle, l'adresse courriel que tu utilises à tous les jours. Parce que Twitch, faut te demander de t'identifier. C'est la même affaire que mon compte à CasePop. Mais là, si Mado est capable, toi aussi?
Ah, il manquait pas ça, hein, parce qu'il y a quelqu'un qui me fait vraiment penser à Mado qui est dans un show à soir sur Tout ce qui TV à 20h, justement, qui s'appelle Clip Bates, le tout suivi de notre ami Valérie du Média du Jeu à 21h.
Il y a une représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie, un mot que j'aime pas. qui a affirmé dans une chronique que la majorité des Québécois semble influencés par un sentiment anti-musulman. Puis, ça dérange beaucoup, surtout pour la CAQ qui essaie de faire valoir la laïcité, mais beaucoup de monde qui ont réagi à ça. Là, entre autres, évidemment, Roberge, le ministre responsable de la laïcité.
C'est drôle qu'on parle de lui, hein, encore. On a parlé hier.
Oui, en tant qu'ancien ministre de l'Éducation.
Le gars, il se dit, hey, ils vont me mettre à l'immigration, ça va être tranquille. Je vais arrêter de me faire blaster par tout le monde. Bang! Il arrive ça 3 mois après, tu sais.
Mais bon, elle a fait un espèce de texte là, qui a été co-signé par le président du réseau anti-haine. Puis, je ne suis pas en train de dire que je suis contre qu'il existe une instance qui surveille la haine, là, mais j'aime pas le mot islamophobe. Parce que, pas nécessairement à cause de son sens profond, mais à cause de l'utilisation qu'on en fait. D'habitude, ce mot-là sert à une chose, faire taire les critiques qui s'en prennent à l'islam. C'est rare qu'on entend christianophobe, mais ça commence aussi. Mais si on a un sentiment, elle a décrit ça comme un sentiment anti-musulman.
Ben, je sais même pas si elle a dit islamophobe. Les mots qu'elle a utilisés, c'est ça, c'est anti-musulman.
Anti-musulman. Mais je sais pas où qu'elle va chercher ça, mais je trouve qu'il y a une nuance à faire, là. On est peut-être anti-islam. Au Québec, on est de plus en plus anti-religion. Moi je vais parler pour moi, là. Moi, je suis anti-islam. Je suis anti-christianisme. Je suis anti toutes les maudites religions. Je suis anti toutes les idéologies basées sur des mythes de l'âge de bronze et qui favorisent la foi au lieu de la raison et qui place les femmes dans un état d'infériorité, qui préconise des lois et des punitions barbares, qui préconise des valeurs d'un Dieu suprême, une espèce de papa céleste qui manifestement n'est pas animé de grande morale, qui contrôle les gens en leur faisant croire que il y a du monde passé qui ont passé puis qui était animé de pouvoir céleste magique là, puis des fois c'est même pas subtil là, je veux dire que Jésus aurait réveillé des morts, aurait marché sur l'eau, Mahomet aurait fendu la lune en deux puis l'aurait recollé. Puis aussi, il serait parti sur le dos d'un cheval ailé vers le ciel. Puis je suis pas. Mais anti-musulman, j'aime pas le terme parce que c'est envers des humains. T'sais. Moi, j'ai rien contre les musulmans, j'ai rien contre les chrétiens. J'en connais plein, puis j'en compte un paquet d'amis. Là. J'en ai contre l'idéologie, contre le mysticisme, contre les valeurs de ces religions-là. Puis Mahomet n'est pas le prophète le plus paisible qu'on a connu. Là, c'est un conquérant, t'sais, les conquêtes de l'islam. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a fait grandir sa religion en se servant de la guerre pour envahir des pays et attaquer des populations. Fait que j'ai de la misère à le voir comme un bon guide moral. Là, puis... Pis en fait, le problème, c'est que l'islamophobie, et ce mot-là, est devenu une arme contre les critiques. Puis quand on arrête de critiquer, quand on a peur de critiquer ces idéologies-là par crainte de se faire traiter d'islamophobe, bien, on les critique plus. Parce qu'on ne veut pas se faire vilipender dans les médias publiquement, parce qu'on ne veut pas se faire dire qu'on est xénophobe ou bien qu'on est une mauvaise personne. Puis quand on arrête de les critiquer, ben c'est là qu'ils essaient de prendre du pouvoir. Puis là, je parle pas des musulmans, mais je parle juste des religions en général. C'est comme ça, là. C'est pour ça que la laïcité, c'est quelque chose de crucial. C'est pour ça qu'on est un État, disons, à 90% laïque. Au Québec, on a longtemps été exploité par l'Église. Là. Je viens d'en parler, là, comment ça se passait. Là. Les prêtres étaient... tout puissants dans les paroisses. Ils étaient plus puissants que le maire par leur influence. Ils ont même inventé un système pour connaître les secrets les plus intimes de tout le monde afin de s'en servir contre eux. Ça s'appelle la confession. Viens avec moi dans le petit garde-robe, puis compte-moi les pires affaires que t'as fait, parce que si tu le fais pas, tu vas aller brûler en enfer, souffrir des pires brûlures pendant des milliers, puis 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 des milliers d'années. Là. Pourquoi j'ai dit autant de milliers? Parce que l'éternité, c'est long! Fait que sous cette menace, une fois que les gens croient ça, qui vont aller en enfer s'ils ne se demandent pas pardon, ben ils ont vraiment peur d'aller se faire brûler. Là. Fait qu'ils racontent tous leurs secrets aux prêtres qui, après ça, sont capables de se servir de ça. Puis on a une connaissance qui est malsaine de tout le monde. Ben, l'islam, c'est pareil. C'est, si on leur laisse prendre du pouvoir... Allez voir les pays qui sont dirigés par des gouvernements théocratiques musulmans. Regardez en Iran, là, c'est épouvantable. Les droits humains, là-bas, ça n'existe pas. Il n'y a que le Coran, il n'y a que les hadiths, il n'y a que les... il n'y a que les croyances et des hommes avec des pénis qui décident pour tout le monde et qui relèguent la femme à un statut d'infériorité tellement qu'ils sont, elles sont obligées de se cacher, de se couvrir en public. Là, puis, je veux dire, la religion chrétienne aussi, ça a déjà été ça aussi. Là, je veux dire, le même genre de traitement des femmes, là, ça l'est moins parce que y a peu de pays, en tout cas, je ne sais pas si ça existe encore, des théocraties chrétiennes. Mais il y en a encore des républiques islamiques, là. Ça existe encore. Puis en, tous les pays qui sont dirigés par une religion quelconque, il n'y a pas de droits humains. Puis ça, c'est une constante, là. Et puis quand on a peur de les critiquer parce qu'on a peur de se faire dire qu'on est islamophobe, christianophobe ou peu importe, eh bien, on leur laisse le champ libre. Puis qu'est-ce que ça fait? Rappelez-vous, là, je pense que c'est en 2003, 2004, 2005, dans ce coin-là. On essayait de faire valoir, de faire reconnaître les tribunaux de la charia, les tribunaux islamiques, notamment en Ontario. Je pense que ça s'est rendu en Cour suprême ou quelque chose du genre, ça s'est rendu assez haut. Ils ont failli avoir le droit de faire leur tribunaux parallèle au système de justice. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui appartiennent à ces communautés-là, que plutôt qu'être jugés par un système de loi qu'on a voté, qu'on a convenu ensemble en société, qu'il représentait bien la morale que l'on voulait mettre de l'avant, ben on les laissait se juger entre eux selon des lois barbares, avec des punitions aussi barbares, avec des valeurs qui sont tout à fait immorales. Parce que ça l'est, barbare, et c'est surtout primitif. Là, c'est des croyances de l'âge de bronze. Là. Et puis les croyances chrétiennes sont encore plus anciennes. Là, on parle d'à peu près 500 ans plus vieux, mais on est dans l'âge de bronze. On est dans les mythes, on est dans les punitions corporelles, dans la violence, dans la subjugation des femmes, dans les exécutions, les coupages de bras, coupages de mains. Ça a failli passer au Canada au nom le multiculturalisme. J'ai rien contre le multiculturalisme, mais à un moment donné, la loi, c'est la loi. Puis si on a convenu en société qu'on allait vivre selon ces lois-là qui représentent des valeurs humaines qui se rattachent aux droits fondamentaux de l'humain, là, on ne peut pas accepter que se fassent des tribunaux parallèles. Puis tout ce que je dis là, c'est sévère, c'est du fiel, là. Je vilipende, là. Je suis bien dans, j'irais pas dire que j'ai été doux puis tempéré. Non, je les plante, là. Mais je plante la philosophie, l'idéologie, la religion, pas les gens. Fait que, tu sais, anti-musulman, ouais, OK. Pourquoi tu dis ça? Anti-musulman, c'est vraiment à l'encontre des gens qui pratiquent, qui ont cette foi-là. Anti-islam, je l'aurais mieux pris, on dirait. Mais bon, on lui demande en fait, Legault demande qu'elle démissionne ou que Trudeau la force à démissionner ou la mette dehors. Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, Trudeau lui a juste dit qu'il l'invite à clarifier sa pensée. Puis c'est normal que ça n'arrive pas. Elle a fait sa job. C'est ça, sa job. C'est dans l'esprit du multiculturalisme à la Trudeau. Ben c'est ça qu'on s'attendait. C'est à ça qu'on s'attend de cette fonction-là. Puis, ben écoute, elle l'a fait. Moi, je suis pas d'accord avec elle. Ben, en fait, est-ce que ce qu'elle dit dépeint une réalité? Peut-être, mais est-ce que c'est mal d'avoir de craindre l'islam? Moi, je pense que non. Est-ce que c'est mal de traiter les musulmans différemment ou d'avoir un parti pris? Ça, oui. Moi, je considère tous les gens qui ont la foi comme étant victimes d'une religion. Puis, je connais plein de gens qui ont la foi en diverses religions, surtout des chrétiens, mais aussi des musulmans. Puis, j'ai rien contre eux absolument. C'est juste que je pense que leur idéologie puis les valeurs véhiculées par leur religion sont nocives pour l'humanité. puis ça a été prouvé, puis c'est facile à démontrer, et que leur religion est immorale. Fait que moi, ce qui est immoral, c'est bien de valeur, je suis contre ça. Fait que je suis contre l'islam. En fait, je suis pas contre le fait que ça existe, pareil comme le christianisme. J'en parle souvent du christianisme et de la religion, c'est parce que ça me passionne, j'aime ça en quelque part. Sauf que j'aimerais mieux que ce soit, que ça reste des mythes. Puis c'est l'aspect historique qui est intéressant, puis l'aspect de l'influence dans la société, là, tu sais. Mais quand on se met à y croire, puis quand on commence à vouloir baser les lois d'une société sur n'importe quelle religion, les résultats sont catastrophiques pour les femmes, mais pas juste pour les femmes, pour tout le monde. Les droits humains passent dans le moulin à viande, puis ça, c'est très dangereux. Puis ça, je vais combattre ça jusqu'à mon dernier souffle. Et si je me rends compte que la majorité des Québécois sont comme ça aussi et préfèrent une société de droit à une société qui se base sur des superstitions de l'âge de bronze, ben moi, je me réjouis de ça, tout simplement. Puis je suis pour la laïcité à 100%. Dans tout ce qui est tout ce qui concerne notre gouvernement, tout ce qui concerne la loi, puis en fait tout ce qui concerne le gouvernement, pas la vie privée. Si des femmes se sentent plus ont le goût de se voiler, puis elles pensent qu'elles honorent leur Dieu comme ça, ben j'ai rien contre ça là. Je pense que les femmes et les hommes devraient avoir le droit de porter ce qu'ils veulent, ce qu'elles veulent. Mais dans tout ce qui est gouvernemental, tout ce qui est la loi, je pense qu'il faut craindre toutes les religions. Parce que les religions vont à l'encontre de la morale et du droit. C'est tout. Puis moi, ben écoute, si on se rend compte qu'au Québec, ben, on est rendu, qu'on préfère avoir, on est passé outre notre propre religion, et puis j'imagine par le fait même toutes les religions, puis qu'on est en faveur d'un système laïque, ben moi, je suis très favorable à ça. Mais si elle pouvait démontrer, bien là, c'est un sentiment anti-musulman, je trouve que c'est un peu dur à démontrer, mais si elle pouvait démontrer que vraiment on est anti-musulman et on veut ostraciser ces gens-là, bien là, je serais d'accord à combattre ça aussi. Mais quand je vois les gens parler d'islamophobie ou de que je vois qu'il y a une instance gouvernementale de lutte contre l'islamophobie, ben ça me dérange.
Moi, j'exerce mon opinion sur les religions en n'en pratiquant aucune. Et je suis pour la laïcité dans toutes les sphères qui concernent l'État. Et je suis d'avis que, ça arrivera jamais, mais je suis d'avis que les gens... C'est parce que la religion, c'est fondé sur, tu sais, c'est largement fondé sur un sentiment de bienveillance. Et moi, ça me dérange plus. C'est pas plus grave, mais ça me dérange plus. Nuance. Ça me dérange plus quand on prend des gens en défaut pour des trucs comme agression sexuelle et qu'ils viennent de ce monde-là. Parce que la raison pour laquelle les gens se sont tournés vers eux, c'était qu'ils avaient réussi à les convaincre qu'ils étaient bons. C'est ça qui me dérange le plus. Mais pour ce qui est de la liberté, moi, je vais te le dire, là, les vraies affaires, c'est que, d'ailleurs, il y avait eu un sondage léger là-dessus. Je suis pas mal convaincu que si on prenait 100 personnes, moi pis toi, puis qu'on faisait un vox pop, mais qu'il n'y aurait pas de Kodak, OK? J'ai l'absolue certitude que oui, il y a des préjugés défavorables envers l'islamisme. C'est un fait, c'est une réalité. Je ne croise pas de monde, moi, qui me dise « Ah, moi, je trouve que ça a bien de l'allure, l'islamisme. » Je veux dire, il n'y en a pas. C'est un fait, elle a raison. Moi, je pense qu'elle a raison quand elle dit qu'au Québec... Il y a un, tu sais, je sais pas la tournure de phrase exacte, là, j'ai pas l'article devant moi, mais moi, je suis convaincu que tu t'en vas dans, tu sais, les gens qu'on côtoie, en général, ne sont pas d'accord avec l'existence de l'islamisme, peu importe la raison.
Je vais juste faire une précision dans les termes, là, c'est l'islam, c'est la religion, l'islamisme,
ben, c'est le fait de la pratiquer, j'imagine, là. Écoute,
non,
là.
Non, c'est, bon. Ça, c'est musulman, mais les islamistes, si je ne me trompe pas, c'est l'islam politique.
Bon, ben, le musulmanisme d'abord.
OK, ouais, mais en tout cas, ben, peu importe. Mais c'est sauf qu'en même temps, c'est on peut presque faire l'amalgame, puis je sais que c'est un mot-là dangereux, mais l'islam, de la façon qu'il est fait, c'est un gouvernement. C'est des indications de comment faire un gouvernement, comment gérer la vie des gens. Fait que, tu sais, mais les islamistes sont ceux qui veulent amener l'islam au pouvoir, dans un pouvoir politique. C'est pas le cas de tous les...
OK, bon, garde. Non, c'est correct, je comprends.
Pas de mal.
J'ai rien pris de mal. Je fais juste dire que, d'abord, moi te présenter ça autrement. La majorité, moi, je suis d'avis que la majorité des Québécois, si tu leur dis c'est quoi qui est le moins bon, être musulman ou être catholique, ils vont dire musulman. C'est ça que je veux dire.
Oui, c'est vrai. Puis bon. Ils vont le dire souvent par ignorance. Puis si c'est dit en connaissance de cause, ça peut être un point valable. Moi, je pense pas que l'islam est tellement pire que le christianisme là, ou que le judaïsme. Mais la plupart des gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'ignorance parce que c'est pas notre culture, c'est pas notre religion.
Ben, c'est ça, c'est associé à l'ethnicité.
On la connaît moins, c'est ça. Puis l'image qu'on en a, ils sont pas forts en publicité, hein, les musulmans, hein, quand ils font des... Ils sont pas bons pour leur image publique. Hein, quand on regarde les pays qu'ils dirigent, comment ça se passe, ou quand on voit les attaques terroristes... Mais dites-vous que pour le christianisme, ça a déjà été exactement la même chose, aussi violent, aussi conquérant, aussi barbare. C'est juste que c'est dans le passé. L'islam et le christianisme, c'est à peu près les mêmes valeurs puis la même façon d'exercer le pouvoir, mais à 500 ans de décalage. Ils sont arrivés 500 ans après, puis là, ben, c'est comme s'ils étaient rendus à leur croisade dans les dernières années quand on a commencé à avoir beaucoup d'attentats terroristes puis tout ça. Mais pour vrai, là, je vous invite votre tête n'est pas faite là-dessus, je vous invite à aller juste lire un peu ou aller voir des documentaires. Allez lire l'Ancien Testament. Okay? L'Ancien Testament, c'est pas mal la base des trois grandes religions abrahamiques, c'est-à-dire le judaïsme, les juifs, le christianisme, les chrétiens, et l'islam. OK? Puis, elles sont pas mal toutes basées sur ce livre-là. Allez lire ce livre-là, l'Ancien Testament. Là-dedans, vous allez découvrir un Dieu qui est qui raisonne comme un enfant, qui n'est pas très intelligent, qui est jaloux, méchant, vengeur, qui n'a aucun sens moral, puis qui n'hésite pas à tuer des innocents par milliers ou par millions et faire des génocides. C'est ça, l'Ancien Testament. Allez lire les livres religieux, c'est la meilleure façon de devenir athée. Quand vous allez voir à quel point c'est immoral et c'est dégueulasse ce qui se passe là-dedans, puis les valeurs qui sont véhiculées, c'est épouvantable. C'est pour vrai, là, c'est Dieu est pire que Hitler. Je sais qu'il y en a Godwin. Non. Il est pire. Lui, il fait des génocides de la planète au complet, là. Les bébés, les animaux, tout le monde, tu sais. Je vous dis, allez lire ça. Après ça, dites-vous que c'est ça qui est à la base des trois grandes religions et ça explique pourquoi la morale est épouvantable. C'est sûr qu'ils ont fait des... l'épisode 2 est meilleur que le premier. Le Nouveau Testament est beaucoup moins dégueulasse que l'Ancien. Mais allez vous renseigner un peu sur l'Ancien Testament. Si vous n'avez pas la patience de lire ça, il y a certainement des documentaires qui le résument très bien. Mais les religions sont toutes bâties sur ce squelette moral-là qui est extrêmement immoral. Fait que je pense que si on veut continuer à vivre dans des sociétés libres, démocratiques, morale avec des droits humains qui ont de l'allure, on devrait toujours garder une petite crainte envers toutes les religions, surtout lorsqu'elles essaient d'acquérir du pouvoir politique. Ou dans le cas de l'islam, dans les dernières années, surtout en Ontario, un pouvoir juridique. Quand ils ont essayé d'instaurer les tribunaux de la charia, ils ont presque réussi. Il y a une autre personne qui est l'objet d'un culte de plus en plus qui se transforme en véritable religion, c'est Donald Trump.
Oui, ben c'est ça, je m'en allais, tu m'as volé mon segway, mon hostie.
Oh, excuse-moi.
Prends une respiration, mais oui, Donald Trump, écoute, je ne sais pas si tu le savais, là, mais tu sais, il a fait une grande révélation, je ne sais pas si c'est, on peut considérer ça comme de l'ordre du Messie ou peu importe, mais écoute, je vais te faire écouter un clip, puis on en parle après.
Through weakness and incompetence, Joe Biden has brought us to the brink of World War III. We're at the brink of World War III, just in case anybody doesn't know it. As president, I will bring back peace through strength. I would have a peace deal negotiated within 24 hours.
Fait que du grand Trump, hein, n'est-ce pas? Évidemment, il affirme qu'à cause de Joe Biden, ben, on est sur le bord d'un troisième conflit mondial, de un, c'est juste ça. Et que lui, ben, il va ramener l'ordre avec sa force et sa sagesse et son intelligence, insérer qualificatif. Et ensuite, écoute, c'est pas une mince déclaration, là. Il y aurait en place un traité de paix à l'intérieur de 24 heures.
Lui, il pense qu'il aurait intimidé Poutine.
Ah, avec la force, là, moi, ben oui, ben.
Oh, ouais, c'est ça.
Des bombes nucléaires, puis
c'est
tout.
C'est ça. Fait que là, tu sais...
Ben, là, Dieu nous préserve de dans notre...
Ben sens. Non, mais tu sens le sentiment d'urgence. T'sais, un, c'est clair que c'était stratégique pour lui d'affirmer qu'il allait briguer l'investiture des républicains avant que Biden confirme qu'il revenait. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit que stratégiquement, ça lui permettrait pas de revirer du monde de bord. Parce que moi, je pense que Trump, mettons qu'il a gagné l'investiture, je pense pas qu'il va gagner, je pense que ça va être DeSantis, mais mettons, OK? Ben, c'est clair que les pourcentages de gens qui étaient contre lui, qui seraient pour lui après, je parle juste aux élections, là, s'il était candidat républicain, pas l'investiture, là. Mais c'est quoi tu penses? Moi, je considère que les probabilités qu'il fasse virer la veste de certaines personnes est nul. OK? Au contraire, je pense que s'ils se représentent, ils vont en perdre. Mais c'est peu réduit, par exemple, eux autres vont être encore plus débiles. Tu sais, ils vont aller à côté des bureaux de scrutin, puis ça va être le bordel. OK? Mais même si il réussit à remporter l'investiture républicaine, je pense pas que les chiffres vont changer. Par contre, ce qu'il y a d'intéressant dans cette histoire-là, parce que ce qu'il vient de dire, on s'en sac, là, je veux bien plus te parler de que va-t-il se passer quant à Biden et à Trump. Ben Biden, c'est à mi-mot qu'il dit qu'il va se représenter, mais la confirmation en tant que telle, ça serait probablement au début février, après le State of the Union, qui est toujours autour du 7 février. Fait que ça serait probablement là. C'est sûr que les observateurs pensent. Est-ce que ça veut dire que ça va arriver? Non, mais c'est probable. Fait que là, on se ramasserait, puis là, bien évidemment, il va avoir l'investiture, puis tout ça. Tu sais, ça passe vite, là. N'est pas si loin le jour où est-ce que Blais puis Cossette Trudel déclaraient victoire sur toute la ligne. En fait, nous autres, on disait ça à propos d'eux autres parce que Trump n'avait pas gagné, mais ça va quand même. Il va quand même avoir un petit peu de mystère et de boule de gomme autour de tout ça parce que, un, il va avoir une course à savoir si Trump va remporter l'investiture contre DeSantis. Je suis sûr que ça va être ça, la course. Deux, est-ce que Biden va se représenter? Et dans le contexte de moi, ce que je pense, selon certaines observations, dont celle de Michel COG, que j'aime beaucoup, bien. Jusqu'à date, la présidence de Biden, c'est pas si pire que ça, pantoute, là. Pantoute. Et c'est le cas dans plusieurs cercles, que ce soit dans les couloirs des officines du Sénat, du Congrès et tout ça. Fait que ça risque d'être pas mal intéressant, je te dirais, de la suite des choses. Sauf que là, ben écoute, capitalisons sur le fait que les démocrates n'ont pas encore parlé du tout de qui ils vont présenter. Qui va se présenter plutôt à l'investiture démocrate. Fait que là, ben lui, regarde, il se dit que c'est du real estate gratuit, puis essaye de galvaniser ses troupes. Puis là, ben pour du monde qui n'a pas peur, ben il utilise ça beaucoup. Parce que là, d'aller dire qu'on est sur le bord d'un troisième conflit mondial, je veux pas dire par là que ben non, tout va bien, puis qu'il n'y a pas de problème sur la Terre. Sauf que là, regarde, il y a quand
ça
même...
Ça pourrait arriver, tu sais.
Ben, il y a quand même une marge, là.
Mais si ça arrive, tu sais, ou bien si on est vraiment sur le bord de ça, c'est dangereux d'avoir un candidat républicain à Maison-Blanche, je pense. Parce que les républicains, ce qu'ils aiment, c'est un président qui a le gun dans les mains, là. Puis lui Trump, c'est le genre à dire à celui à un maniaque avec une mitraillette, c'est le genre à le provoquer, là. Puis t'as pas marché mon gun, moi aussi. Tu sais, c'est pas
ça qu'on va faire la vérité, là, Frank, là, tu sais quoi que je pense? La vérité, je pense que c'est. Qu'à l'heure actuelle, de toute façon, les démocrates n'ont pas trouvé leur rockstar. Puis là, Joe Biden, il a encore le statut de gars qui a détrôné Trump. Ça se score, ça. Ça se score au sein du parti, là.
T'sais, mais le monde a voté contre Trump. T'sais, le monde a voulu se débarrasser de Trump. C'est pour ça que Biden a été élu. Je pense pas que Biden ait vraiment rallié puis fait susciter des passions comme Obama, par exemple.
Ben, je suis d'accord, sauf que le résultat est le suivant. Toi, tu fais partie d'un parti et tu vis dans un État, tu vis plutôt dans un pays où la réalité de la vie, là, c'est qu'il y en a deux partis. Sortez-moi le patente. Tea Party, puis machin. Là. Bon, ben, il y en a deux parties, là. OK? C'est pas plus compliqué que ça. Il y a quelques indépendants qui gagnent ici et là, des rockstars de leurs États, là. Mais là, tu vas arriver, puis tu te dis, bon, voici ce qu'on a devant nous autres. Il y a personne qui dépasse les autres en termes d'investiture au Parti démocrate à ce stade-ci. En tout cas, il n'y en a pas que je connaisse. Biden, il a sorti Trump. Il y a des probabilités qu'on ait soit Trump ou soit Trump vanille en DeSantis. C'est quoi le meilleur cheval qu'on a? C'est Biden. Puis en plus, il est président actuellement puis il ne fait pas une si mauvaise job que ça. Fait que regarde, moi je pense que c'est ça qui va arriver puis je pense que l'investiture démocrate est dans la poche pour Biden s'il décide d'y aller. Ce qu'on ne sait pas, puis je ne peux présumer de ce que ça donnera comme résultat en termes de négativité, c'est les documents qu'ils ont trouvés chez eux. Est-ce que ça peut effriter son... Ça, c'est bon pour tout, bon pour Minou, mais est-ce que ça peut effriter le support à Joe Biden au sein du Parti démocrate? Ça, on va le savoir, je le sais pas. Je le sais pas, ouais. Même. Fait que, voilà. Fait que ça va être intéressant.
Maintenant que les candidats deux partis se sont rendus coupables de la même niaiserie, avec Pence en fait deux du côté des Républicains. Mais, on peut dire match nul sur le
sur oh oui, puis...
Biden, il n'y a pas plus raison, Claude. C'est pas plus louable que Biden y en ait que Trump. C'est un peu moins épeurant, là, parce que Trump, on ne sait jamais ce qu'il va faire, puis il pourrait être assez fou pour trahir son pays. Biden, je ne veux pas... Biden, on ne le connaît pas, là. Mais,
ben, moi,
il est plus sensé comme être humain. Hein? Il est plus posé, il est moins extrémiste, puis il est... Je pense qu'on est capable de, tu sais, même si je suis pas un psychiatre qui a interrogé les deux, là, je pense que Biden est moins cave que Trump. Ça, je pense qu'on se trompe pas. Là. Puis je pense que dans un contexte de conflit comme ça en Europe, j'aime bien mieux avoir quelqu'un de tempéré qui est sur la raison plutôt que quelqu'un qui aurait aimé ça être un potentat. J'écoutais. Ces temps-ci, je réécoute les documentaires Apocalypse sur la Deuxième Guerre mondiale. Puis quand tu vois, là, je pourrais dire que Trump et Mussolini, là, mais quand tu vois les personnages publics des dictateurs de cette époque-là, là, t'as Hitler, qui est un grand geste, puis c'est spectaculaire, puis il dit des affaires, tu sais, out there, qu'est-ce qu'il a dit là? Mussolini, comme ça, ils ont toutes des espèces de personnages ridicules, caricaturales. Ben, Trump a aussi un espèce de personnage ridicule, caricatural. N'hésite pas à mentir, n'hésite pas à manipuler les gens, n'hésite pas à se proclamer comme une espèce d'élu, comme celui qui va régler tous les problèmes dans le pays, puis... Colin, si tu mets Trump en Europe au début du siècle, là, ben c'est un potentat, je pense. Je pense qu'il aurait pu ressembler à ces gens-là, là, de son personnage, le même genre de charisme malsain, puis le même mépris de la vérité et de la morale et du bon droit. Là, c'est les mêmes valeurs. C'est juste qu'aux États-Unis, je pense qu'on est quand même assez bien protégé contre ça. Même s'il a tenté. Même si ils ont tenté de putsch au Capitole, ils ont tenté de tasser le parti démocratiquement élu pour remettre par la force leur crackpot au pouvoir. Tu sais, c'est assez épeurant. Une chance que ça s'est passé aux États-Unis, puis que au moins les États-Unis ils sont un peu fous, mais ils ont quand même des mesures puis des choses qui les protègent, qui protègent leur démocratie. Mais Colin, le 6 janvier, la démocratie a été en danger pour vrai, là. Puis c'est pas des politiciens qui sont dans la raison qui mettent la démocratie en danger, en tout cas pas en Occident.
On verra. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Écoute, il y a un... une Québécoise, en fait, qui s'est associée avec une autre personne qui s'est intéressée, en fait, au ça concerne les personnes âgées, et particulièrement au Japon, mais ça pourrait être un produit qui serait commercialisé ailleurs. La raison pourquoi ça se passe présentement à Okinawa, au Japon, c'est que ça a été subventionné par le pays, parce que le tiers du pays, en fait, le tiers du Japon a plus de 65 ans. C'est une population vieillissante. Et il y a une Québécoise, à cause d'une expérience personnelle, elle s'appelle, excuse-moi, c'est Jocelyn, j'avais lu Jocelyn. C'est Jocelyn Faubert de l'Université de Montréal qui cherchait à protéger sa mère des chutes. On le sait, les personnes âgées sont plus à risque, évidemment, d'effectuer des chutes. Il existe déjà des solutions technologiques qui permettent de s'assurer d'avoir visuellement de permettre de regarder les personnes dans leur résidence pour savoir s'ils ont fait une chute. Mais eux autres, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent prévenir les chutes. Fait que comment ça marche, c'est que c'est un bracelet. Il y a des sensors partout dans la pièce. Et ce bracelet-là prévient quelqu'un, dans peu importe, là, si c'est un centre pour personnes âgées ou peu importe, là, du risque ou du potentiel, tu sais, qui permet de te donner du temps pour aller porter assistance à la personne parce qu'elle pourrait être en déséquilibre et tout ça. Mais la beauté de l'affaire, c'est qu'il n'y a pas de caméra. Donc, tu sais, ils peuvent détecter les mouvements de la personne pour savoir si tout est correct, si tout se passe bien. Ils peuvent croiser ça aussi avec certaines habitudes que ces personnes-là ont, ou lorsqu'elles ont de l'assistance, mettons, prendre le bain, c'est à peu près à telle heure, donc on sait que là, le bracelet est enlevé. Tu vois le genre un petit peu, là, c'est d'apporter une plus grande supervision, mais que ce soit moins invasif pour les personnes qui en bénéficient. Alors, Jocelyn Faubert s'est associé avec une autre personne qui s'appelle Kashayar Mizagian, et c'est une compagnie qui s'appelle, ou c'est un projet plutôt qui s'appelle Sage Sentinel. Et c'est l'Institut des sciences et technologies d'Okinawa qui a en partie financé ce projet-là. Comme je le disais tantôt, porté par l'aîné, le bracelet est relié à des capteurs dans une pièce qui suivent les mouvements du corps, comme un système de surveillance, mais sans caméra de surveillance invasive. Fait que l'objectif, c'est évidemment une phase test pour après ça tenter de commercialiser ça. Je trouve ça intéressant, d'autant plus qu'il y a un Québécois impliqué dans cette affaire-là. Et de la motivation également, c'est-à-dire que c'est parce qu'il a vécu cette expérience-là, parce que c'est arrivé à sa mère qui a fait des chutes.
Oui, puis c'est ça. Les chutes, non seulement sont plus vulnérables à ça, mais les chutes ont des plus graves conséquences.
Ben oui,
se casser une hanche à 32 ans, puis ça a cassé à 82, c'est pas la même histoire. Puis c'est cool, parce que moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est que c'est ça, c'est pas invasif. C'est que oui, ça donne une surveillance d'un point de vue sécurité, mais ça entre pas dans la vie des gens avec des caméras et tout ça.
Ben non, puis écoute bien ça. À cause de ce que je t'expliquais, du vieillissement de la population au Japon, les chutes sont responsables des blessures physiques dans plus de la moitié des cas chez les 65 à 79 ans et près de 80% chez les gens de 80 ans et plus. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu as passé 80 ans et tu restes au Japon, ben si tu te blesses, ça va probablement être à 80% causé par une chute. Fait que, tu sais, j'imagine que ce sont des modèles qui doivent être applicables aussi dans d'autres pays, dans d'autres marchés, on va le dire de même, là. Fait que, bonne chance avec ça, puis souhaitons que, justement, tu sais, moi je sais bien que la trêve, il y a beaucoup de personnes âgées de ma famille, mettons, que je sais que, tu sais, les blessures, tu sais, des hanches, tout ça, ça a été causé par des chutes. Puis là, regarde, s'il y a une façon de, pas de prévenir ça, mais en tout cas de s'assurer de la sécurité de ces gens-là, regarde, c'est de très bonne loi.
Accélérer les secours, tu sais, c'est ça. Si quelqu'un tombe puis il est tout seul dans son appartement, puis on ne sait pas, il peut même mourir là, tandis que s'il y avait eu des secours rapides, ça lui aurait sauvé la vie. C'est une très bonne nouvelle.
Tu me permets, avant qu'on quitte, Frank, je vais lancer un petit message à ma maman pour lui dire que je pense à elle aujourd'hui, parce que c'est une journée très importante, en fait, dans notre famille à nous, parce que c'est aujourd'hui que mon papa nous a quittés. Alors, je vais lui, bien sûr, lui parler, mais je veux juste lui dire que je pense à elle et que je l'aime beaucoup.
Je participe aussi, je m'inscris à ces vœux-là aussi. Salut, Pierre. Puis salut toi aussi, parce que c'est de ton papa qu'on parle. Puis je sais qu'il est important de.
Ah ouais, ben oui.
C'est toujours assez impressionnant. Les anecdotes que tu sors sur lui, ça va l'air vraiment d'être quelqu'un. On va se quitter là-dessus, puis on va se reparler demain.
de la famille H2O Web Media.